Sortie de boîte.
C'est une de ces belles journées d'hiver dont les franches montagnes ont le secret. Le soleil fait briller l'épais manteau de neige qui s'est installé depuis quelques semaines et c'est au beau milieu de ce paysage plein de sérénité que je retrouve mon invité. Le côté calme et serein des lieux n'a pas été choisi au hasard. Je les aperçois justement en arrivant à mon rendez-vous au bois. Des chevaux sont sortis dans ce paysage hivernal. Mais ce ne sont pas des chevaux comme les autres, ils sont là pour terminer leur vie dans la tranquillité des franches montagnes. Et comme me le confie mon invité du jour, ils l'ont bien mérité. Béatrice Michel, bonsoir.
Bonsoir.
Sortie de boîte, Alexandre Rosset.
Béatrice Michel, vous êtes la présidente du conseil de la Fondation du Cheval depuis l'an dernier, une fondation qui accueille plus de 170 chevaux, poneys et ânes âgés, dont ses trois homes basés au Roselay, à la Maison Rouge au Bois et à Jean Brenin à Tramelan. Vous êtes originaire de Lucerne, alors comment est-ce que vous vous êtes retrouvée aux Franches Montagnes?
Alors, c'était un parcours assez long. Ça a commencé avec les études dans l'université de Berne, où j'ai étudié la zoologie et, entre autres, éthologie des équidés, donc des chevaux et des ânes. Et je suis partie en Camargue pour étudier la vie des chevaux sauvages, comme on dit. Et une fois terminé ça, j'ai continué avec les ânes. Et une fois terminé ça, malheureusement, je suis rentrée de nouveau en Suisse. Et là, j'ai continué au parc zoologique de Berne. J'ai travaillé là. J'ai arrêté après pour changer et pour aller à l'université de Berne parce que ça m'a passionné aussi d'apprendre plein de choses sur les relations publiques. Et c'est pendant quelques années, j'ai fait les relations publiques pour l'université de Berne. Et à cette époque-là, j'étais déjà au conseil de la fondation. Donc, on m'a dit que voilà, tu connais très bien les chevaux, alors ce serait bien si tu viennes parmi nous. Et une fois que le poste se libérait ici, aux Franches-Montagnes, pour les relations publiques pour la fondation, ben, j'ai dit, voilà, c'est le top, quoi. C'est les chevaux et les relations publiques. Et ça fait, ouais, il y a 12 ans que j'ai commencé et j'ai arrêté après.
Alors si on revient justement sur vos études, vous l'avez dit, vous êtes parti en Camargue plusieurs années pour observer les troupeaux de chevaux en liberté notamment. Oui. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience dans le sud de la France ?
Ah, c'était magnifique parce que vous êtes là, vous observez, vous ne faites rien et les chevaux vous montrent leur vie, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie. Et c'est absolument passionnant parce que c'est des animaux qui veulent vivre en famille. Ils veulent des relations individuelles. C'est pas n'importe qui avec n'importe qui. Ils choisissent très bien. Et ils sont très fidèles. Ils restent toute la vie avec les juments, par exemple, avec leur étalon. Ils élèvent les poulains avec une tendresse, avec l'amour. Mais c'était fantastique. On peut dire qu'ils sont presque comme des singes. C'est vraiment des relations individuelles très complexes.
Et du coup, c'est une expérience qui vous sert encore aujourd'hui à la Fondation ?
Oui, absolument, parce que vous comprenez comment ils arrivent, comment ils intègrent dans ce troupeau-là quand ils arrivent et comment ils choisissent leur partenaire. Oui, absolument.
Alors les chevaux de la Fondation sont, j'imagine, du coup quand même plus âgés que ceux que vous avez étudiés à l'époque. Est-ce que ça a quand même remis en cause certaines choses que vous avez apprises par le passé ?
Non, pas du tout. Mais ça m'a montré aussi que ce que les chevaux veulent, c'est un partenaire ou deux ou trois, des amis. Et ça, c'est n'importe à quel âge. Ils peuvent avoir 30 ans, ils peuvent perdre leur copain, mais après 3 mois, ils en retrouvent un autre. Non, ça, c'est quelque chose que... C'est, les chevaux sont comme ça.
Alors, vous l'avez dit, les relations publiques, vous les avez étudiées notamment aussi à l'université de Berne. Et vous avez été en charge de ce domaine pendant plus de 10 ans à la Fondation. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet aspect-là du métier ?
De montrer aux gens qui sont intéressés et qui ne connaissent pas du tout les chevaux, montrer qu'est-ce que c'est un bel animal, qu'est-ce qu'il est noble, qu'est-ce qu'il est intéressant. surprenant et raconter la vie des chevaux parce qu'ils viennent tous avec un passé. Et ce passé n'était pas parfois si joli, si facile. Et comment ils font pour vivre avec l'âge, c'est quelque chose que j'adore. Voilà.
Alors Béatrice Michel, on va maintenant s'intéresser à la fondation en tant que telle et à son histoire. Elle a été créée il y a 60 ans par un certain Hans Schwartz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il a voulu mettre sur pied cette fondation ?
D'après ce que je sais, c'était une personnage assez particulière, très très engagée. Il adorait, il aimait les chevaux. Il a vu après la guerre mondiale qu'il partait à la boucherie, mais par centaines, par milliers, parce qu'il y avait les tracteurs, les camions qui sont arrivés. Et il avait peur que le cheval disparaisse de notre monde, carrément. Il ne pouvait pas savoir qu'au contraire, après un certain temps, c'est devenu vraiment un nouveau, comment dit-on, un flash pour ces chevaux-là. Il y en a plus de chevaux maintenant que quand il a commencé son œuvre. Et donc il a dit, je dois sauver ces chevaux-là, je dois les sauver aussi à la fin de leur carrière, à la fin de leur travail, parce qu'ils ont bien mérité une retraite paisible. Et pour montrer aux gens, les chevaux, ils vivent, ils doivent survivre surtout. Et c'est pour ça qu'il a créé cette fondation.
Et vous ne l'avez pas connu, hein,
malheureusement,
mais
pas, oui.
Vous m'avez confié que vous aviez beaucoup d'admiration pour lui.
Oui, parce qu'il ne se gênait pas d'aller à gauche, à droite, acheter des chevaux devant la boucherie. Il est allé à Zurich avec des chevaux sauvés. Et il s'est arrêté en pleine ville. Les gens, ils étaient étonnés. Et peut-être ils ont pensé, c'est un fou, là. Et il est allé voir les gens, il a dit, il faut me donner de l'argent. Et à cette époque, j'ai trouvé des lettres où il a demandé 5 francs par personne pour pouvoir acheter des pâturages, pour pouvoir lâcher ses chevaux. Et les chevaux, les gens l'ont écouté et ils ont trouvé ça peut-être bizarre, mais ils l'ont soutenu. Et il a commencé et ça a grandi.
Et alors justement, au tout départ, il s'était installé sur l'île Saint-Pierre avec ses chevaux. Alors pourquoi ce choix ?
Et il a cherché du terrain, il a trouvé là-bas, parce qu'il y avait des pâturages, c'était pas exploité, il les a mis là-bas, et la bourgeoisie de Berne lui a permis de mettre ses chevaux là, et il s'est vite aperçu, c'était pas vraiment un bon endroit, mais si vous connaissez, c'est en été, il y a que des moustiques là, hein. Et il fait très chaud, c'est humide, c'est pas un climat pour des chevaux, il s'est rendu compte vite.
Et alors justement, ensuite, il s'est tourné vers les Franches-Montagnes. En quoi cette région, c'est un endroit idéal pour accueillir les chevaux en fin de vie ?
C'est idéal, et il a reconnu ça déjà. Il y a plein de chevaux aux Franches-Montagnes. Alors il y a une cause aussi, et il y a l'espace, c'est sec, c'est un climat qui est froid en hiver, pas très chaud en été, et il y a surtout certainement la place, l'ouverture, et ils savaient, oh, ça c'est un endroit pour lâcher les chevaux et ils vont être bien. Et c'est toujours maintenant, c'est comme ça.
Et on se dit pourtant, il fait froid, mais les chevaux supportent bien le froid comparé aux chevaux, c'est ça ?
Oui, absolument. Ouais. Il ne faut pas les couvrir, ils ont des poils. Par contre, en été, dès que ça dépasse 26-27 degrés, ils n'aiment pas ça. Non, ils souffrent.
Alors aujourd'hui, de manière plus générale, hein, quelle est la mission de la Fondation du Cheval ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ?
C'est rester, comme M. Schwartz a dit, on veut avoir des chevaux à la fin de leur vie, de leur carrière, quand ils ont fait dans le sport, dans le loisir, que les gens puissent amener leurs copains chez nous et leur offrir une belle fin de vie. C'est le but.
Donc c'est resté le but
ouais,
du départ finalement.
Ouais. Et on a une côté aussi, on sauve pas mal de chevaux parce que les gens nous appellent en disant « Écoutez, ma maman est morte, elle avait ce cheval-là, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux pas le tuer, je suis au chômage, j'ai perdu mon partenaire, toutes ces misères. Voilà, » Malheureusement, les chevaux les subissent aussi.
Alors, Béatrice Michel, on va maintenant se rendre aux Franches-Montagnes, dans l'un des 3 homes de la Fondation pour le Cheval. Jean-Michel Probst a rencontré Annelise Parenin, l'une de vos chefs d'équipe à la Maison Rouge au Poix. Reportage.
Sortie de boîte.
« sont importants les prénoms des chevaux. Il y a d'ailleurs pour chacun une fiche, une carte d'identité sur le, sur le site de la Maison Rouge.
Ouais, alors sur chaque porte de boxe, on a une carte d'identité. Après, sur le site internet, il y a un ou deux qui ressortent un peu du lot, qu'on a un suivi un peu plus régulier. Le cheval, c'est quand même un animal de compagnie un peu à part, comme je veux dire le chien, où ça l'humanise un petit peu le nom. Très honnêtement, quand vous les appelez, ils savent très bien qui s'appelle qui. Hein. Ils sont rigolos.
Vous aussi, vous avez du coup un contact, un rapport un petit peu particulier avec ces chevaux.
Bah, déjà, pour travailler dans les chevaux, non-stop, il faut déjà vraiment aimer le cheval. Il faut l'avoir dans le sang, comme on dit. Le vieux cheval, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est pas un cheval qu'on utilise, qu'on monte dessus. Ils arrivent ici, ils sont en retraite, ils font rien. Hein. On fait juste que de les sortir, les nourrir, les soins, s'en occuper. Et ils ont toute une vie derrière eux, ils ont tout un passif. Puis bien sûr, normalement, on a des chevaux qui arrivent tous plus ou moins faciles, éduqués, toute leur vie, ils ont eu des gens avec eux. Puis ici, ce qu'on voit, c'est que le cheval, il change.
Ils ont quel âge, les chevaux que vous accueillez ici?
Alors, ils peuvent arriver à partir de 18 ans, et après jusqu'à, je dirais, 24 ans, 24-25. Après, c'est juste compliqué. Plus on les intègre tard, plus c'est compliqué. Parce que la vie en troupeau, c'est quand même pas facile. Donc, c'est mieux qu'ils soient un peu jeunes, entre guillemets, et en forme. Beaucoup de chevaux ont une vie en boxe. Ils sortent quelques heures par jour dans un petit parc avec un ou deux autres congénères, mais c'est tout. Alors ici, ils doivent arriver et d'un coup, ils en voient 60 et ils doivent faire leur place au milieu du troupeau. Et c'est ça qui est dur pour eux. C'est vraiment de perdre ces petites habitudes, d'être dans un box surprotégé, le moindre petit truc, une couverture quand il fait froid et tout. Ici, ils doivent se réhabituer à vivre comme ils vivraient un petit peu dans la nature. C'est clair, ils ont les boxes. Quand il fait trop chaud, on les rentre. C'est clair qu'on fait le maximum pour leur donner du confort, j'entends. Mais il faut apprendre à vivre en troupeau. Et c'est le plus dur pour beaucoup de ces chevaux, vraiment. À 4h30-5h, on passera donner le silo ou le foin selon ce qu'ils ont pour la nuit. Et avec l'aliment. Et après, à 9h, entre 9h et minuit, il y a un de nous qui revient contrôler toutes les écuries, vérifier que tout est en ordre. Voilà.
Sortie de boîte.
Béatrice Michel, on l'a entendu dans le reportage, les chevaux sortent quand même tous les jours malgré l'orage, c'est important ça?
Absolument, parce qu'ils veulent aussi, hein. Ils ne veulent pas rester dans le box, ils veulent voir les copains, ils veulent bouger, ils veulent avoir la vie dehors, parce qu'on ne les monte plus, on ne fait plus rien avec eux, ben, il faut quand même un peu bouger. Et ils adorent ça, et ils veulent sortir.
Et alors, comme chez les humains, on constate que l'espérance de vie augmente aussi chez les chevaux. Alors, comment est-ce qu'on l'explique?
C'est étonnant. Depuis que je suis au conseil, à la fondation, ça fait quand même plus que 20 ans, on avait rarement des chevaux des trentenaires. Maintenant, ça arrive souvent. Ils sont peut-être mieux gardés. Avant, ils travaillent un peu moins. Ce sont quand même des copains de loisirs. Ils ne travaillent pas dur. Et la médecine a fait son progrès aussi. Et voilà, ils arrivent, pas facilement, mais on a quelques-uns qui arrivent à 32 ans, comme nous d'ailleurs.
Et du coup, cette hausse de l'espérance de vie, j'imagine que ça a aussi des conséquences sur la fondation concrète.
Oui, parce qu'ils ne partent pas, et pour avoir un nouveau arrivé, mais il faut une place qui se libère. Et évidemment, quand ils vivent un peu plus longtemps, la liste d'attente devient un peu longue les dernières années, oui, c'est vrai.
Justement, là, la liste d'attente, elle est, vous l'avez dit, elle est de plusieurs années.
Oui, ça, maintenant, on a bloqué, donc on ferme la liste d'attente pour que les gens n'attendent pas trop longtemps. Maintenant, on peut dire, celui qui est chez nous, inscrit, il doit attendre un an et demi jusqu'à deux ans. Et après, c'est sûr qu'il aura une place chez nous.
Alors, on l'a dit, les vieux chevaux sortent quand même, hein, ils ont envie de marcher. Certains peuvent avoir des problèmes pour se déplacer. Mais un autre point crucial, c'est la dentition, c'est juste?
Oui, absolument, oui. Parce que la vie d'un cheval se termine avec les dents, parce que quand ils naissent, ils changent une fois les dents. Après, ils ont une certaine longueur et ça use, à force de mâcher le foin et l'herbe. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de dents. Donc, ils n'arrivent plus à se nourrir correctement avec du fourrage grossier. On peut leur donner évidemment du mâche, du muesli, tout ça. Mais pour nous, ce n'est pas la qualité de vie. Un cheval qui mange quand même en liberté jusqu'à 16 heures par jour, on ne peut pas le nourrir vite fait, non. Il faut qu'ils mangent.
C'est une raison de vivre pour ces chevaux, en fait.
Oui,
pouvoir
exactement.
Manger et se déplacer.
Ouais. Et se déplacer, marcher aussi. Ouais, c'est très important.
Et comment alors savoir quand un cheval est à la fin de sa vie, qu'il vit ses dernières heures, et qu'il faut peut-être abréger ses souffrances, comment vous le déterminez ?
C'est les palefreniers qui le voient. Parce qu'ils connaissent les animaux par cœur et ils savent que où il va pas bien, il y a des urgences évidemment, il y a des accidents aussi malheureusement, mais la plupart des cas c'est que on voit il arrive plus à se nourrir, donc il maigrit. On veut pas ça, il faut pas qu'il meure de faim. Hein. Après il boite parce qu'il a l'arthrose aiguë continue. Et après, on discute avec le vétérinaire et c'est eux qui prennent la décision pour dire ça va plus. Là, c'est de la souffrance. On veut pas ça. Il y a plus de qualité.
Et l'animal aussi le faire sentir d'une certaine façon, si on veut.
Oui, il y a des cas où on voit carrément qu'ils n'ont plus envie, ils ne mangent plus, ils ne veulent plus sortir, ils sont apathiques. On voit dans les yeux et là, c'est... Oui, ça nous aide aussi à prendre la décision, parce qu'on voit le cheval ne veut plus.
Il y a donc, vous l'avez dit, la médecine s'est améliorée dans le domaine, mais il n'y a quand même pas un acharnement, si on veut, jusqu'à la fin.
Non, c'est... On fait tout pour eux, et voilà, des petites blessures, des trucs qu'on peut soigner, évidemment, on le fait. Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez pas soigner un cheval qui n'a plus de dents ou bien qui a une... Ouais, non. Après, on s'arrête, ouais.
Et quand vous prenez cette décision, justement, d'euthanasier un animal, est-ce que vous consultez le propriétaire ? Est-ce qu'il a un suivi ?
Oui, on l'informe, puisque l'animal est à nous, donc nous sommes les propriétaires, mais quand même on garde un lien avec l'ancien propriétaire, on téléphone en disant « voilà, ça va plus, il faut gentiment y penser ». Et là, il y a deux réactions, c'est les gens qui viennent encore une fois, et parfois aussi que les gens, les propriétaires disent « non, je veux le garder dans mon mémoire comme il était avant, je viens pas ». Alors vous faites, je vous fais confiance. Et on le fait sur place, chez nous. Hein. Il ne sort pas à la boucherie.
Béatrice Michel, on va faire une petite pause avant d'évoquer l'avenir de la Fondation pour le Cheval. Comme chaque jeudi, Marie-Lise Saillard nous propose sa chronique horlogère. C'est pile à l'heure.
Pile à l'heure.
Cette année, pour sa 29e édition, le Salon international de la haute horlogerie dure un jour de moins qu'à l'habitude. Il prend fin ce soir. Il est surtout destiné aux professionnels, mais le public peut s'y rendre jusqu'à 22h. Visite sur le stand de la marque Hermès, pour qui il paraît que 2019 est l'année du rêve.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Le patron des montres Hermès, Laurent Dordet, nous présente l'heure de la lune, une montre masculine à complication de la ligne Arceau.
L'idée, c'était de faire une phase de lune extrêmement originale et extrêmement innovante. Un mécanisme nous a permis de présenter non pas une phase de lune, mais deux, c'est-à-dire la lune telle qu'on la voit de l'hémisphère nord et aussi de l'hémisphère sud. Et ce n'est pas la Lune qui tourne, ce n'est pas la Lune qui est le satellite, ce qui est la fonction classique de la Lune, quelque chose d'assez anecdotique dans un coin d'une montre. Là, non, la Lune, c'est le centre du débat, c'est le centre de la montre, et c'est au contraire les fonctions de la montre, l'heure, la minute, la date, qui deviennent les satellites et qui tournent autour des Lunes. Voilà.
Au nom de la Lune, je serai là demain.
Si on demande à Laurent Dordet de nous décrire cette montre, voici ce qu'il répond.
Je dirais que c'est une montre qui a déjà beaucoup de profondeur, c'est une montre assez large, 43 mm. On a l'impression de plonger un peu dans l'espace entre deux lunes, voilà, avec un fond d'espace qui peut être soit en aventurine, donc un ciel bleu profond étoilé, soit en météorite. Et ce sont donc les deux satellites de l'heure et de la date qui tournent autour des lunes. Et en tournant, eh bien, elles viennent traduire le cycle de la lune qui décroît et qui croît différemment d'ailleurs quand on est dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud.
Lune, en notre mémoire, de tes belles amours, l'histoire t'embellira toujours.
L'heure de la Lune existe donc en deux versions, limitées chacune à 100 exemplaires, mais quelle que soit la matière utilisée pour le cadran, l'effet est spécial.
Il y a l'effet plongeant dans l'espace avec l'aventurine, il y a l'effet lunaire avec la météorite. Je dirais qu'il y a aussi sur les deux lunes qui apparaissent une décalque du relief de la Lune telle qu'on les voit vraiment du nord et du sud, avec en plus sur la Lune du sud une petite surprise à la Hermès qui est qu'on a superposé sur la décalque de la Lune, la décalque d'un dessin de Pégase, de cheval ailé, qui vient d'un de nos carrés. Voilà, donc ça c'est le petit détail pour ceux qui ont de très bons yeux.
La Lune est-elle un ange veilleux sur toi ?
Cette montre d'Hermès est le fruit d'une collaboration. Dernière explication de Laurent Dordet.
Nos équipes de création, nos équipes de développement, Vaucher, qui est le développeur du mouvement, et Chronode, qui a merveilleusement travaillé avec nous pour adapter, enfin pour développer même ce module branché, si on peut dire, sur le mouvement Vaucher et qui permet ce carrousel, notamment des satellites autour des lunes.
Cette montre est donc bernoise, puisque la manufacture Hermès est installée à Bienne, mais elle est aussi neuchâteloise, puisque le mouvement vient du Val de Travers et que le module a été développé au Locle.
À l'heure. Nous sommes de retour avec la présidente du Conseil de la Fondation pour le cheval. Béatrice Michel, on l'a évoqué tout à l'heure, la liste d'attente ne cesse d'augmenter. Alors, est-ce que vous avez des solutions à court terme pour pouvoir offrir plus de places ?
Oui, c'est un grand plaisir parce qu'on a pu acheter une petite ferme à côté de Maison Rouge où on a déjà 80 chevaux. Et on est en train de développer une quatrième petite station où on peut accueillir autour de entre 16 et 20 chevaux.
Et après, il y a aussi l'objectif de l'ouvrir peut-être au public aussi, accueillir les enfants, les familles.
Oui, parce que chaque station chez nous est ouverte de 7h le matin jusqu'à 7h le soir. Là, on y tient. Et probablement, c'est pas encore conclu, mais peut-être il y aura d'autres petits animaux de la ferme pour justement accueillir un peu les classes, des écoliers, tout ça. Parce que comme c'est pas loin de la gare, alors c'est facile pour y accéder. Ça nous ferait très plaisir.
Alors la démarche est en cours. Au niveau du processus, qu'est-ce que vous devez encore faire pour concrétiser ce projet ?
Alors maintenant, il faut demander l'autorisation de construire auprès du canton. Évidemment, on est en train de réfléchir de ne plus refaire les fautes qu'on a faites dans les anciennes stations pour faire la meilleure station et de construire et surtout retaper aussi la maison d'habitation qui est sur place, qui est très vieille.
Alors j'imagine que comme partout, de tels projets dépendent des finances à disposition. Un mot peut-être là-dessus. D'où vient l'argent de la Fondation, sachant que vous ne bénéficiez pas d'aide de l'État ?
Oui, on a pas des paiements directs ou d'autres subventions. C'est uniquement les dons, les héritages et nos donateurs, nos amis. Et on a quand même autour de 20 000 dans toute la Suisse qui nous donnent 5 francs, 50, 500 francs par an et on vit de ça. Et dès qu'on a un peu d'argent de côté, voilà, on peut se permettre de grandir ou de faire des rénovations.
Et les propriétaires aussi participent, c'est ça ?
Oui, si possible, oui. Quand ils nous amènent un cheval, on leur demande 200 francs par mois pour la pension, ce qui couvre évidemment pas les frais. Mais le reste est payé par nos donateurs et nos amis. Et quand il y a quelqu'un qui ne peut pas payer ou bien qui a perdu son job, qui est dans la détresse et tout ça, on dit qu'il n'y a pas de souci, on garde le cheval, on le prend aussi parce qu'il y a des amis qui nous aident.
Béatrice Michel, nous arrivons au terme de cette émission. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir fait le déplacement depuis les Franches-Montagnes. Bonne soirée.
Bonne soirée et merci beaucoup.
La semaine prochaine, Alexandre Steiner recevra Raphaëlle Grosso de la brasserie Bierenko à Corgémont. Son invité évoquera notamment le grave accident de travail qu'il a vécu il y a 2 ans. L'émission du jour ainsi que les précédentes sont à retrouver sur la page de sortie de boîte sur notre site internet. Merci à Sandra pour la technique et je vous souhaite une très belle soirée.